une grande dévotion à l'égard de Dieu. Ce qui fait la différence aussi, c'est leur manque de repentance, hein, de ce premier groupe. Plusieurs fois dans ce livre, nous avons lu hein, que Dieu met en évidence un péché du peuple et la première réaction, c'est laquelle? C'est en quoi t'avons-nous méprisé? En quoi avons-nous fait ceci? En quoi t'avons-nous trompé? Prouve-le. Pour eux, ils sont certains d'avoir fait comme il faut tout ce qu'ils faisaient. Donc, ils n'ont pas eu besoin de se repentir. Et on arrive à la fin de ce livre, et on voit un peuple qui ne s'est pas repenti. Un peuple à qui il manque ce véritable cœur de repentance. Et probablement dans ceux, je peux penser que dans ceux qui dont il est dit qu'ils craignent l'Éternel, ici, il y avait de ceux qui agissaient mal, mais qui ont écouté les paroles de Dieu et qui se sont repentis parce que la crainte de Dieu les a saisis. L'apôtre Paul parle quand il parle du méchant, hein, des païens dans Romains chapitre 3, il cite un peu pas mal de textes de l'Ancien Testament et il dit, ils n'ont pas la crainte de l'Éternel devant leurs yeux. Ils n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Ce qui qualifie l'impie, le méchant, c'est qu'il n'a pas la crainte de Dieu devant ses yeux. Donc, il ne cherche pas à se repentir. Il ne prend pas au sérieux la parole de Dieu. Puis, aussi, je pourrais dire qu'il y a une différence dans les perspectives. Si vous regardez le premier groupe, eh bien, c'est des gens qui ont le regard sur les choses matérielles uniquement. Ils regardent aux hautains, ils regardent aux arrogants, ils regardent aux méchants, ils regardent la prospérité apparente du méchant. Et une fois que leurs yeux sont fixés là, ici, eh bien, ils s'estiment malheureux. Ils estiment qu'ils sont les perdants. Ils sont les dindons de la farce, comme on dit. Hein. Ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont cru à Dieu, ils se sont humiliés, ils ont marché dans le deuil, et voilà le résultat. Rien, c'est la famine, c'est les vers dans les fruits, etc. Bon, Dieu ne reçoit même pas leur sacrifice, alors que le méchant, lui, il est plein d'embonpoint, et il prospère. Parce qu'ils ont les yeux fixés sur une perspective terrestre. Le peuple mesure la justice de Dieu en regardant la prospérité des païens. Il accuse Dieu d'injustice quand il dit au chapitre 2, verset 17, « Où est le Dieu de la justice ? La prospérité des méchants est devenue pour eux une bénédiction désirable. » Ils disent ici, « Maintenant, nous estimons, verset 15, heureux les hautains. » Ils ont une vision à court terme, une vision qui est vraiment rétrécie, dans laquelle ils ont oublié une chose, ils ont oublié l'éternité. Ils ont oublié que le plan de Dieu, c'est un plan qui se déroule sur l'éternité. Et qu'on ne peut pas se fixer aux choses uniquement présentes pour expliquer la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre nos circonstances propres pour essayer d'expliquer la justice de Dieu. Nous sommes, c'est vraiment une parenthèse, nous sommes une parenthèse dans l'éternité. Donc c'est important ici de considérer ces choses, de considérer les choses d'une manière éternelle. Si nous lisons, par exemple, le psaume 73, vous connaissez le psaume 73, hein? C'est exactement le même cas avec Asaph. Regardons ensemble le psaume 73. Le psaume 73. C'est exactement le même thème du problème de la prospérité des méchants. Que le méchant prospère, c'est pas un problème. Mais parfois, le chrétien le voit comme un problème. Et Dieu n'a jamais dit que le méchant ne prospérera pas. Il n'a jamais dit que le méchant ne sera pas riche, qu'il n'aura pas tout ce qu'il veut. Il n'a jamais dit qu'il ne sera pas en bonne santé. Mais nous avons parfois décrété que parce qu'on est chrétien, on devrait être en bonne santé. Et à côté de la prospérité du méchant, on a développé l'évangile de prospérité. On ne peut pas être malade, il faut que le chrétien soit riche, il faut qu'il soit en bonne santé. Dieu n'a jamais dit cela. Donc, regardez dans le psaume 73, on ne va pas lire tout le psaume, mais à partir du verset 12, le psalmiste Asaph dit ceci, il dit « Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain, c'est la même phrase, hein, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut troubler véritablement. Et il ajoute au verset 17, « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. » Après, il explique tout le reste. Mais il dit à un moment donné qu'il était sur le point de trébucher tellement cette chose lui semblait étrange, que le méchant prospère et qu'il soit toujours heureux, alors que lui qui fait des sacrifices, il soit obligé de vivre dans des situations parfois difficiles. Mais il dit qu'il a dû, Dieu a dû l'amener, le faire s'élever jusque dans le sanctuaire de Dieu. Le point de vue est important quand on observe quelque chose. Quand on observe depuis les situations matérielles qu'on essaie de regarder vers là-haut, ça marche pas. Il faut être du côté de Dieu et de regarder à travers la parole, de regarder dans l'éternité des choses. Il a dit, Dieu lui a permis de voir au sort final. Et c'est cela que ce peuple a oublié de faire. Ils ont perdu cette perspective éternelle. Ils ont oublié d'analyser les circonstances présentes sur la base du jugement à venir. C'est ainsi que nous devons toujours analyser les choses. Jamais moi par rapport à quelqu'un d'autre, jamais ma situation par rapport à la situation de quelqu'un d'autre, jamais la situation des chrétiens en général par rapport à la situation de ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est toujours Dieu a de regarder jusqu'au bout, le sort final. C'est ça qui va marquer. Dieu dit la même chose ici. Malachie dit la même chose ici. Il parle du jour, regardez le verset 17. Dieu parle du jour que je prépare. L'apôtre Paul dit la même chose quand il parle aux Philippiens et qu'il leur dit qu'ils doivent être irréprochables pour le jour de Christ. Ce jour doit être le point de mire de chaque enfant de Dieu et non pas les circonstances que nous pouvons connaître ici-bas. L'apôtre Paul nous exhorte à considérer le poids éternel des choses dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 et 18. Il dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. » Il ajoute, « Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. » Toujours le regard plongé dans ce qu'on ne peut voir, mais dans ce qui est déjà annoncé par la parole de Dieu. C'était l'attitude de Moïse, qui avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est pour cela qu'il a pu ne rejeter la jouissance pour un temps, la jouissance temporelle, dit la Bible, des biens de l'Égypte, pour se tourner vers ce qui a une valeur éternelle. C'était l'attitude d'Abraham qui attendait la cité céleste, celle qui a des fondements sûrs, et non pas ce qui était matériel. Et c'est comme ça qu'il a pu dire à Lot, eh bien, choisis d'aller dans les plaines de Sodome et fertiles, etc., où tu veux. Lui, il avait vraiment un cœur qui attendait les choses éternelles. Donc ici, on voit bien qu'il y a une différence entre ces deux catégories de personnes. On parle par les paroles qu'elles prononcent, mais les paroles qu'elles prononcent sont motivées par leur conception, les conceptions qu'elles ont de Dieu, de la vie et de la justice de Dieu. Et donc il convient que nous ayons une vision de la justice de Dieu qui soit conforme à ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Sans quoi, la conclusion, eh bien, elle sera comme celle de ce peuple. On va se dire, il est vain de servir Dieu. C'est pas la peine. Je souffre. J'ai cru que quand on est au Seigneur, tout va bien, c'est le meilleur des mondes, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et je constate que c'est bien souvent l'inverse. Et c'est pour cela que nous devons faire attention à la manière avec laquelle nous prêchons aussi l'Évangile aux gens, et ne pas leur dire, viens au Seigneur Jésus, tous tes problèmes vont disparaître. Dieu n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit que, voilà, on va rouler sur une route pavée que de bonnes choses. Jamais il n'a dit cela. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, c'est par beaucoup d'afflictions qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et donc Dieu n'a jamais promis que les choses seraient faciles. Mais il nous promet de regarder au sort final. Et c'est cela qui peut nous réjouir, de regarder à la rémunération. Deuxièmement, je vais passer plus vite là-dessus, Dieu établit cette distinction, montre qu'il y a une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, en manifestant une attention particulière à l'égard de ceux qui le servent. Une attention exclusive pour ceux qui le servent. Parfois, on se pose la question, on dit « Dieu aime tout le monde ». Est-ce que Dieu aime tout le monde? C'est une bonne question que ça pose. Est-ce qu'il aime également tout le monde? Et on dit, voilà, Dieu aime tout le monde. Pareillement, également. La Bible ne dit pas cela. Moi, je ne vois pas cela. Je vois que Dieu a un amour exclusif aussi pour ses enfants. Et il le manifeste. Il a une attention exclusive. Il les déclare d'une certaine manière. Il les appelle « mon peuple ». Et quand on parle du peuple d'Israël, c'est très, très clair. La Bible souligne la disposition favorable et exclusive de Dieu à l'égard de ceux qui le servent et de ceux qui le craignent. Par exemple, il dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Alors, bien sûr, Dieu voit tout le monde. Est-ce qu'il voit tout le monde? Oui, il voit tout le monde. Mais il y a un regard particulier sur ceux qui le servent, sur ceux qui le craignent, sur ceux qui lui appartiennent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Le psaume 145, 19 dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, car il entend leurs cris et il les sauve. Et donc Dieu a une attention particulière à l'égard de ceux qui le craignent. Et dans Malachie, dans ce texte-là, nous voyons la même chose. Malachie relève plusieurs choses concernant l'attention de Dieu, l'attention particulière de Dieu à l'égard de ceux qui le servent. Déjà, il les déclare fils. Regardez ici, en prenant la comparaison entre la compassion d'un homme pour son fils, mais il déclare que ceux-là sont ses fils et qu'il aura compassion d'eux. Regardez le verset 17, « J'aurai compassion d'eux ». Ça veut dire qu'il ne l'aura pas pour les autres de la même manière. C'est ça que ça veut dire. Il y a une compassion spécifique pour ceux qui le craignent. Il dit aussi qu'il est attentif et qu'il écoute. Ici. Il est attentif ici et qu'il écoute ceux qui le craignent. Ce n'est que ceux qui sont spécifiés comme craignant Dieu, ici. C'est de ceux-là seulement qu'il est dit qu'il est attentif et qu'il les écoute. Il n'est pas dit ça du premier groupe, même s'il les a entendus. Il les a entendus. Mais ici, on voit particulièrement que Dieu écoute. La Bible affirme des fois que Dieu n'écoute pas toujours. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 15, par exemple, il dit, « Vous, quand vous étendez vos main, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Et on voit qu'il y a des moments où Dieu n'écoute pas. Lorsque le cœur n'est pas droit devant lui, lorsque les mains sont remplies de crimes, eh bien, il dit, c'est pas la peine de multiplier les prières, je ne les écoute pas. Donc Dieu n'est pas toujours favorablement disposé, mais il l'est toujours pour ceux qui le craignent et qui espèrent en lui. Il écoute la prière de ceux qui le craignent et qui espèrent en lui. La Bible dit même que quand un homme détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole, la prière même de cet homme devient une abomination pour Dieu. Il dit sa prière même est une abomination. Donc il y a ici une attention qui est spécifique, qui est marquée à l'égard de ceux qui servent Dieu. Ils se parlent, la Bible dit, et Dieu est attentif. Parce que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il dit, il est au milieu d'eux. Il n'est pas dit qu'il est au milieu de toutes les assemblées. Il dit qu'il est au milieu de ceux qui sont assemblés en son nom. Ceux qui sont assemblés avec le souci d'honorer son nom. Ceux qui le craignent, ceux qui veulent exalter son nom. Ceux-là, quand ils sont rassemblés, il est au milieu de Dieu. Il ne faut pas croire que Dieu est dans toutes les assemblées. Il suffit de se rassembler pour qu'il soit présent. Il est avec ceux qui s'assemblent en son nom, d'une manière particulière. Donc il fait ainsi une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Une autre chose que Malachi relève ici, il dit qu'un livre, regardez au verset 16, il dit « un livre de souvenirs fut écrit devant lui ». Notez ce que Dieu fait ici dans les cieux. Il note dans un livre de souvenirs. Et cela indique que Dieu se souvient de manière spécifique aussi de ses enfants et n'oublie rien parce qu'il inscrit. J'aime bien cette pensée. Il inscrit de manière indélébile. La Bible dit que Dieu efface nos transgressions, mais qu'il inscrit nos noms dans le livre de vie de ceux qui lui appartiennent. Et cette disposition de Dieu marque une vraie différence entre ceux qui servent, ceux qui le servent, et ceux qui ne le servent pas. Non seulement il n'oublie pas, mais encore mieux que cela, il inscrit. Moïse avait dit, vous rappelez, dans une prière à Dieu, il a dit, il voulait prier pour le peuple, et Dieu avait prévu de détruire ce peuple. Moïse dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Dieu a dit non. Et il a dit, c'est celui qui a péché que j'effacerai. Mais quand même, il a envoyé Moïse vers le peuple, il ne l'a pas effacé, il l'a envoyé au musée du peuple pour que le peuple se détourne de son péché. Et tout à l'heure, nous avons lu ce passage dans Romains 11, où il dit que les dons et son appel sont irrévocables. Et donc Dieu, c'est quelque chose de particulier, savoir que ceux qui le servent sont inscrits, ceux qui le craignent sont inscrits. Et c'est une disposition particulière de Dieu à l'égard de ceux qui lui appartiennent. Le psaume 87, regardez le psaume 87, ici psaume 87. Psaume 87 est très court, mais il dit des fils de Corée, psaume cantique. Elle est fondée sur la montagne sainte, il parle de Sion, la cité de Dieu. Elle est fondée sur la montagne sainte. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Ce sont des ennemis d'Israël. Vous voyez que déjà on voit ici déjà l'appel de Dieu pour les nations ici. Je proclame donc l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr et avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il a dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. On pourrait penser à la municipalité avec le gros registre. Et il dit que l'Éternel compte et il inscrit. Et comme cela, c'est noté. Ça ne sera pas oublié. Telle est la disposition de Dieu à l'égard de ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui servent le Seigneur fidèlement sont aujourd'hui même l'objet de cette attention particulière. Dieu se souviendra, il affirme par là qu'il se souviendra, c'est même écrit. Hein, et donc, au jour qu'il prépare, il se souviendra de chacun de ses enfants. Mais il se souvient maintenant aussi déjà. Il a une disposition particulière maintenant à l'égard de ceux qui le servent. Il a une écoute particulière maintenant à l'égard de ceux qui le servent. Et nous pouvons penser à ce que Dieu avait dit au début de ce livre. Il a dit au peuple, je vous ai aimé, dit l'Éternel des armées. Il a manifesté constamment son amour. Et donc c'est la vérité de sa parole qui doit l'emporter sur les sentiments que nous pouvons avoir. Nous pouvons penser, voilà, je suis pas comme il faudrait, Dieu ne m'aime peut-être pas comme il devrait. La Bible dit que Dieu nous aime d'une manière spécifique. Cela doit nous pousser à l'adoration. Il a un regard spécifique sur nous, une attention spécifique sur ceux qui le créent. Nous devons louer Dieu pour cette disposition particulière. Il n'est pas, il ne nous a pas, il n'a pas racheté ses enfants et puis il les oublie jusqu'à... Non, continuellement, il a un regard particulier sur son peuple qu'il a choisi. Et ça, c'est une chose qui doit nous conduire à l'adoration. Troisièmement, donc on a vu une distinction qui est établie par la manière que Dieu nous montre, par la manière avec laquelle nous parlons de lui, mais une distinction qui nous montre qui est manifestée aussi par la disposition particulière de Dieu, la tension particulière de Dieu pour ceux qui le servent. Et enfin, une distinction que Dieu établit dans la manifestation finale de sa justice. C'est ce qu'il dit, revenons à Malachi, c'est ce qu'il dit à la fin de ce chapitre. Il dit, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, du verset 17, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ceux qui le servent, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Il dit, « Maintenant, peut-être vous avez une vision floue de cette différence. Vous regardez ceux qui ne servent pas Dieu, ceux qui le servent, le non-croyant, le croyant, puis vous dites, voilà, bon, il n'y a pas de différence énorme. » Mais il dit, « Mais un jour, cette différence sera vraiment visible. Ils seront à moi, il dit, et au jour que je prépare, ce jour-là, vous verrez la différence. » Dans la traduction Martin, il est dit, le verset 17 est traduit comme ceci, « Ils seront miens, dit l'Éternel des armées, lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux et que je leur pardonnerai, ainsi que chacun pardonne à son fils qui le sert. » Ça c'est encore bon, on aurait pu le dire tout à l'heure. Voilà quelle est la disposition, voilà comment Dieu considère ce qui lui appartient. Ses plus précieux joyaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà désigné comme ça au milieu du travail? Est-ce que vous êtes le plus précieux joyau du patron? Hein? Peut-être pas. Hein? Peut-être des fois dans nos foyers même, on n'est pas les plus précieux joyaux. Hein? Ce serait déjà pas mal, mais... Mais là, que le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé, celui qui a fait toutes choses bonnes et toutes choses belles, celui qui est seul capable de savoir ce que c'est qu'un véritable joyau, il dit des enfants qu'il a rachetés, ils seront mes plus précieux joyaux. Ils le sont déjà maintenant, mais ce fait sera visible plus tard, quand sa justice sera finalement établie. Et donc Dieu parle, il dit que son peuple, c'est sa possession précieuse. Et cela sera clair au jour qu'il prépare. Le peuple se plaignait qu'il n'y avait pas de différence, qu'il n'y avait plus de différence. Peut-être qu'ils avaient entendu par leur père ce que Dieu avait fait à l'époque, à l'époque un peu plus reculée. Et vous savez, la Bible, dans l'Ancien Testament, établit déjà que Dieu fait une différence entre son peuple et ceux qui n'est pas son peuple. Lorsque Abraham prie pour Sodome et Gomorre, il fait appel à la justice de Dieu. La justice différenciée que Dieu fait entre le juste et le méchant. Il dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Et un peu plus loin, il dit, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et Abraham est en train de dire que Dieu est un Dieu juste. Tu ne fais pas un amalgame entre le juste et le méchant. Tu ne tiens pas le coupable pour innocent. Il y a une différence entre les deux. Et dans l'histoire du peuple d'Israël aussi, lorsqu'ils étaient encore en Égypte et qu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte, je crois dans peut-être 5 ou je ne sais pas combien de plaies, à partir de la cinquième plaie, il est question de cette différence que Dieu fait entre son peuple et, il dit à Pharaon, et ton peuple. Il établit une distinction nette. Et écoutez ceci, alors on ne peut pas tout lire, mais si vous voulez, vous pouvez relire Exode 8, 9, 10. Mais dans Exode 11, par exemple, il est dit, « Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tel qu'il y en a point eu, et qu'il y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Et vous pouvez lire dans les plaies, par exemple, à un moment donné, il est question des ténèbres qu'il y avait sur toute l'Égypte. Et puis, juste à Gozen, là où habitait le peuple d'Israël, il y avait de la lumière. Et encore d'autres endroits où Dieu dit, sauf le peuple d'Israël, il y aura cela sur... Il dit, je fais une distinction. Je pense que c'est en Exode 8, je peux le lire. Ici, en Exode 8, 23 ou 19 plutôt, il dit, j'établirai une distinction, il dit ça à Pharaon, entre mon peuple et ton peuple. Et ce signe sera pour demain. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Voilà, dès l'Ancien Testament. Et peut-être que les gens du côté de Malachie, ils avaient entendu ça, et donc ils se disent, mais maintenant, où est la différence? On ne voit plus la différence. Ils sont même plus heureux que nous. Mais Dieu dit, attention, il y a un jour que j'ai préparé, et en ce jour-là, vous verrez de nouveau la différence. Et cette différence, elle sera nette et claire. Regardez au vers chapitre 4, il dit, voici le jour vient, ardent comme une fournaise, et tous les hautains, ces hautains qui étaient déclarés comme heureux, tous les hautains, tous les méchants, seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux dans une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Et Dieu dit, un jour ma justice sera parfaitement manifestée, et la différence sera extrêmement visible. Et il y a deux points de vue pour observer cette différence. De près, je dis de près ou de loin. De l'intérieur ou de l'extérieur. C'est-à-dire, on peut être bénéficiaire de cette grâce qui est annoncée ici, de cette félicité qui est annoncée ici, ou on peut l'observer de loin. Ça peut vouloir dire ça. Vous verrez, mais vous ne serez pas admis. Vous vous rappelez de cette histoire dans Deux Rois, où il y avait une grosse famine, on appelle ça le siège de Dothan, je crois. Il y avait une grosse famine et la Syrie avait, je crois que c'est, oui, ça, la Syrie avait envahi Israël, et puis il y avait, à l'époque du prophète Élisée, il y a une grosse famine, et puis au milieu de cette famine, Élisée se lève et puis il dit, demain, il y aura du pain, de la farine et tout. Et puis il y avait un officier, la Bible dit que c'est l'officier sur lequel le roi s'appuyait, il dit, quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et je vous lis ce que c'était dans 2 Rois chapitre 7 verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée lui a dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et la Bible raconte, je n'ai pas cherché le texte, mais un peu plus bas quand vous lisez l'histoire, la Bible dit qu'il fut écrasé. Il dit ainsi, il a vu, mais il est resté dans sa famine. Il n'a pas pu manger, il n'a pas pu goûter. Et quand Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence, il y a cette possibilité de voir cette différence sans pouvoir en goûter. On peut voir cette différence ici sans en goûter. La voir comme le peuple d'Israël ou la voir au loin comme les Égyptiens. On peut la goûter comme Noé l'a goûté dans l'arche ou la voir de loin, la vivre de loin comme ceux qui ont été emportés par le déluge. On peut goûté à cela comme Lazare l'a goûté dans le sein d'Abraham, ou l'a regardé de loin comme l'homme riche l'a regardé en proie au tourment. Il a vu, mais il n'a pas été au bénéfice de cette différence. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, nous dit ceci. 2 Thessaloniciens, si, à partir du verset 5, il est dit, « C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. » Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les saints anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne le servent pas, ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ, pour ceux qui sont incrédules, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra, en ce jour-là, le jour qu'il prépare, celui dont parle Malachie, en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car le témoignage auprès de vous, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc nous prions ce matin pour tous ceux qui se trouveraient ici et qui n'ont pas encore placé leur confiance en Jésus-Christ. Dieu dit qu'un jour il y aura une différence très visible, très nette. Mais ce sera trop tard. Si ce jour arrive, il sera trop tard. Ce que Dieu dit ici aux gens de l'époque de Malachie, c'est convertissez-vous, repentez-vous, changez d'attitude, changez de cœur, revenez à moi et je reviendrai à vous. Il dit. Tant qu'il n'a pas frappé, c'est encore un jour où nous avons l'espoir, mais une fois que la porte se ferme, eh bien, on n'a que l'observation terrifiante pour nous. Observer de loin la différence. Une différence qui ne pourra jamais plus être comblée. La Bible dit que, à l'époque du déluge, les gens se mariaient leurs enfants. Noé, il a prêché pendant, 120 ans. Et que les gens n'ont pas écouté. Ils n'ont pas cru, dit-il. Ils n'ont pas cru que le déluge viendrait jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne croient que lorsqu'ils voient. Mais lorsque l'on voit, c'est déjà trop tard. Ils n'ont pas cru jusqu'à ce que le déluge vienne. À ce moment-là, ils ont cru au déluge. Mais ils ne pouvaient plus rien faire. C'est maintenant qui est aujourd'hui le jour de grâce. Et Dieu dit que c'est aujourd'hui qu'il faut accepter. Il y aura une différence. Il y aura une différence. Elle sera visible entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Quelques conclusions pour terminer. La nature et le contenu de nos paroles témoignent vraiment de notre appartenance ou non à Christ. Si dans nos propos nous n'exaltons jamais le Seigneur, nous ne sommes jamais soucieux de l'honneur de son nom, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, on n'a qu'à regarder l'abondance de notre cœur. Ça ne veut pas dire que, voilà, oui, on a des moments de haut et des bas, tous nous en avons. Mais si jamais la louange n'est sur nos lèvres, nous n'exaltons jamais le nom du Seigneur Jésus-Christ, ni dans nos foyers, ni dans notre entourage, et que juste le temps du culte, nous avons un semblant de piété, eh bien, il y a peut-être pour nous la nécessité de revenir à Jésus-Christ. Dieu prend un soin particulier de tout ce qui lui appartient. Ça, c'est quelque chose qui doit rester dans notre cœur. Dieu, à cet instant précis, prend un soin particulier, exclusif, spécifique de ses enfants. Et nous devons le louer pour cela. Nous devons le louer pour cela. Il nous a choisis et il nous a mis à part pour faire de nous un peuple qui lui appartienne en propre, nous dit les Épîtres. Le livre de Malachie est un grand appel. Ce n'est pas un livre catastrophique. C'est un livre qui appelle à la repentance, en mettant devant nos yeux la vérité de ce qui arrivera si nous ne recevons pas Christ dans notre vie. Et donc la présentation du sort final des justes et des méchants est une invitation à venir à Jésus-Christ. C'est une invitation à revenir à Jésus-Christ, à se repentir. Cette différence que Dieu fait entre le juste et le méchant, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas, doit nous pousser à la repentance et au désir de servir le Seigneur fidèlement. L'apôtre Paul disait que nous devons travailler ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui, il vaut la peine de servir Dieu, car Dieu fait une distinction entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Et un jour, cette distinction sera, définitive. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de revenir à lui. Dieu ne change pas, disait-il au chapitre 3, verset 6, enfant de Jacob. Et c'est pour cela que vous n'avez pas été consumés. Et si nous ne sommes pas consumés aujourd'hui, si nous sommes encore vivants, c'est parce que Dieu ne change pas et qu'il patiente. L'Ecclésiaste dit que parce qu'un jugement ne s'accomplit pas tout de suite, l'homme ne change pas d'attitude. Il le remet toujours. Mais un moment où Dieu va intervenir, et ça sera trop tard. Que le Seigneur nous guide et que son esprit nous conduise pour la gloire de son nom. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce envers nous. Merci pour ton amour et ta bonté. Et nous te demandons de nous aider à saisir la vérité de ta parole, à te faire confiance. Voyons comment ce peuple a eu du mal à croire à la vérité de tes paroles. Que nous ne soyons pas incrédules, mais que nous acceptions ta parole telle qu'elle est véritablement. Et que nous saisissions que dans la vie, il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas. Ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et que dans l'avenir, il y aura deux destinations. Seulement deux. Ceux qui seront pour toujours avec toi dans la félicité. Et ceux qui seront en proie éternellement au tourment de l'enfer. Seigneur, donne-nous de considérer ces vérités telles que tu nous les montres dans ta parole. Et attire nos cœurs, change-les. Sauve aujourd'hui, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore, qui se trouveraient ici même. Agis par la puissance de ton esprit, nous te prions. Amen.